16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, à l'occasion des 50 ans de la disparition du général de Gaulle, on évoque les grands orateurs de l'histoire. Après vous avoir parlé du général de Gaulle lui-même et de Mirabeau, Mathieu, vous aviez pour mission de trouver un grand orateur vivant, contemporain. C'est chose faite en la personne de Fabrice Luchini, n'est-ce pas ?
Oui, Stéphane. Alors, j'ai connu des choix plus difficiles, là, parmi les contemporains. Dans la catégorie « Quand tu parles, tout le monde t'écoute », Fabrice Luchini s'impose assez vite comme une évidence aux dépens d'autres personnages charismatiques de premier plan, dont les accents lyriques nous subjuguent à chacun de leurs discours. Oui, comment le nier ? Pour cette spéciale grands orateurs, j'ai longuement hésité entre Fabrice Luchini et Jean Castex.
Faut-il rappeler que la sécurité sociale a démontré aussi, dans cette crise, d'autres forces ?
Oui.
Lors des derniers mois.
Oui, avant de noter donc plutôt quand même pour Luchini, car les discours de Jean Castex, comme dirait justement Luchini...
C'est pas la déglingue, hein.
Vouloir présenter Fabrice Luchini en 6 minutes est, je le sais, totalement illusoire, mais ce qui fait toute la singularité de Luchini, c'est sa capacité à ce que j'appellerais désnobiner la littérature. C'est vrai, avant Luchini et sa malice, son plaisir palpable à faire résonner les mots différemment, les lectures des grands textes étaient un peu chiantes.
Je courus et les péninsules des marées n'ont pas subi tube. N'ont pas subi tohu-bohu plus triomphant.
C'était souvent pompeux et compassé. Avec Luchini, la poussière déguerpit, tel pourrait être le slogan de celui qui est devenu au fil de ses spectacles le Dyson des mots. Pourquoi les Dyson aspirent-ils mieux que les autres aspirateurs ? Personne n'en sait rien. Est-ce vraiment la technologie soi-disant révolutionnaire du cyclone multizone, comme l'affirme la pub ? Pas sûr. C'est juste comme ça. Et le mystère est identique avec Luchini. Pourquoi les mêmes mots, dans sa bouche, sonnent-ils différemment ? Il dit « les mots sont des notes de musique ». Ok ? Mais avec lui, même les notes mineures sonnent bien.
Tob, chat, chat, sain.
Chirac lui avait dit un jour en sortant d'une de ses lectures « Avec vous, Luchini, le bottin en anglais, ça marcherait autant ». Tout le monde n'a pas cette aptitude à enchanter les mots. Stéphane, pouvez-vous me lire ce qu'il y a sur ce bout de papier, s'il vous plaît ?
Sel de Guérande, coquillette, lait bleu, PQ Aquatube,
oui, bon,
Semoultipiac, jambon sans couenne.
N'est pas Luchini qui veut. Alors déjà qu'il emmènerait plus sûrement une femme à l'orgasme en lisant sa liste de courses pour le Shopee que moi en lisant à cette même femme les plus beaux poèmes de Pablo Neruda, imaginez quand Luchini leur déballe sa version de Voyage au bout de la nuit.
Oh, elle est magnifique.
Et oui, qui dit grand orateur dit grand pouvoir de séduction. Alors même si c'est un peu tard pour nous Stéphane, je vais tenter de répondre à la question que vous vous posez, que tous les hommes se posent. Comment devient-on Fabrice Luchini ? Déjà, en ne vous appelant pas Fabrice Luchini, mais Robert Luchini. C'est avec le nom prédestiné d'un célèbre dico qu'il vient au monde en novembre 51 à Paris. Comme je vous l'ai dit, pour Luchini, le travail est primordial. Sur le métier, 100 fois tu remettras ton ouvrage. C'est vraiment le dicton qu'il habite dès l'adolescence. À la question, comment vous êtes-vous forgé cet amour des mots, cette culture que vous avez, alors que vous avez assez peu fréquenté les bancs de l'école ? Comment occupiez-vous votre journée ado ? Luchini répond de but en blanc.
Je me tirais sur la tige 10 fois par jour.
Notez que si je prononçais cette phrase, on serait dans le vulgaire. Si vous la prononciez, Stéphane, on serait dans la science-fiction. Mais quand c'est Luchini, ça passe crème. Son sens du verbe, ce n'est donc pas en cours de français qu'il l'exerce, mais en vendant des légumes à la criée aux côtés de son père, sur les marchés. À 13 ans, sa mère le place comme apprenti coiffeur dans un salon huppé de la capitale. Tous ses clients, pour une raison obscure, l'appellent Fabrice. C'est irrationnel, je vous le concède, mais en y réfléchissant bien, effectivement, je confierais plus volontiers ma tête à un Fabrice qu'à un Robert. Il y a un petit côté charcutier maladroit chez Robert qui ne mettrait pas en confiance chez le coiffeur. Réciproquement, pour me découper proprement un jambon à l'os, je n'aurais aucune confiance en un Gonzague, par exemple. C'est ce qu'on appelle l'inégalité nominative. Bref, côté ciseaux, Robert n'est visiblement pas un surdoué, mais il est un as de la relation client. Avec lui, pas de « Alors, Madame Beaucliché, il fait frais ce matin, on dirait que l'hiver est en avance. » Non, vas-y, qu'il te les hypnotise avec des extraits de grands classiques de la littérature qu'il dévore à cette période. Racontés par lui, Balzac, Flaubert et Proust deviennent pour les clientes plus attrayants que tous les potins de France Dimanche. Donc, les jeunes, on se souvient du conseil numéro 1 pour devenir Fabrice Luchini, ne pas trop s'éterniser à l'école et beaucoup, beaucoup se tirer, bref, découvrir son corps. Conseil numéro 2, fréquenter assidûment les discothèques. Alors ok, par les temps qui courent, je vous le concède, vous aurez plus de facilité avec le conseil numéro 1. Mais quand ça ouvrira à nouveau, hâtez-vous, jeunes gens, d'aller guincher sur le dance floor. C'est ainsi que Fabrice Luchini se fait repérer. On est en 1968, le réalisateur Philippe Labro, en repérage pour son film Tout peut arriver, va lui offrir son premier rôle. Il débute en même temps le théâtre, révélation. Mais Fabrice ne peut pas encore vivre tout à fait de sa passion. Il reprend la coiffure et livre des plats cuisinés toute la nuit. Là, on marque une pause, on ferme les yeux et on imagine le bonheur que ça serait d'ouvrir la porte à un livreur Deliveroo qui connaissent Nietzsche et qui vous disent, en vous présentant la margarita supplément raclette fumée que vous avez commandé.
Alors ça, c'est la merveille, c'est là où Spinoza ou même Lévinas
c'est merveilleux l'autre.
Oui, alors évidemment, question productivité horaire, Luchini ne devait pas être le livreur Deliveroo le plus efficace de sa génération, mais une fois encore, question relation client, il était imbattable. Heureusement, très vite, il n'aura plus besoin de faire le livreur car il rencontre Romer. En 85, leur troisième collaboration est un succès. Les Nuits de la Pleine Lune lui vaut une première nomination au César du meilleur acteur. Rien n'arrête plus l'ascension de Luchini, qui, c'est vraiment sa singularité, la clé pour moi de son succès, brasse sans tabou ni complexe culture élitiste et culture populaire. L'emblème de cette joyeuse tous artistique, le film Jean-Philippe, où Luchini rencontre Johnny Hallyday dans un monde où Jean-Philippe Smet n'est pas devenu Johnny Hallyday. Un film que j'avais trouvé sympatoche à l'époque et que j'ai trouvé à la limite du génial l'autre jour en le revisionnant. Rien que pour cette scène où, passablement bourré, Fabrice Luchini chante du Johnny sous les fenêtres d'un voisin qui, par définition, c'est le pitch du film, ne connaît pas Johnny.
La musique vit, quand te vivra le blues.
Ma gueule,
ta gueule. Quoi, ma gueule?
C'est ce mélange des genres ébouriffants qui fera la légende de Luchini, la seule rockstar des lettres finalement qui est répertoriée. Il raconte les centaines de strings sur la scène, les milliers de soutiens-gorge, c'est ça ma vie. Stéphane, est-ce que vous aussi vous recevez des strings au lendemain des diffusions de Secrets d'Histoire?
Rien du tout, je reçois rien du tout.
Plutôt des bas de contention.
Même
c'est...
pas.
C'est l'effet Luchini. Donc vous avez noté Stéphane, pour devenir Fabrice Luchini, ne pas aller à l'école, se tirer sur la nouille allègrement, sans souci du qu'en dira-t-on, aimer Nietzsche et Johnny, Céline et Céline. Un dernier conseil de vie pour la route, Fabrice.
Fumer du shit, aller à Katmandou et finir en Iran.
Je note.
Bah finalement, tout était vrai, Mathieu.
Tout était absolu. Bah, sa vie est tellement dingue à Luchini, oui, d'apprenti coiffeur, oui. Enfin, au sommet du cinéma français, qu'il n'y a pas besoin,
oui,
y a pas besoin d'inventer du faux. Hein.
Non, ouais, évidemment. J'ai rien trouvé de faux. Non, c'était parfait.
Vous le connaissez bien, vous êtes fan, vous aussi, Stéphane, vous l'avez reçu souvent?
Je suis fan et assez ami avec lui. Ah. Et il fait une parodie merveilleuse de Secrets d'Histoire.
Il vous l'a fait en privé ou il l'a
en
fait?
En privé, mais il l'a fait en public aussi. Oui. Il dit ma façon de m'extasier devant un pot de chambre de Marie-Antoinette le fait beaucoup rire. Voilà. Vous savez tout.
Europe 1, historiquement vôtre.